Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici mon petit exposé du mois de juillet. J'aurais voulu commencer par l'histoire de l'Église, mais je pense que je vais commencer par l'affaire du gender, qui est, à mon avis, quand même d'une gravité assez remarquable. Puisque, à l'occasion de la rentrée scolaire de 2011, l'organisme qui a le culot de se faire appeler ministère de l'Éducation nationale, alors que le cinquième de nos enfants ne sait pas lire et qu'il y a de plus en plus de collégiens en prison, cet organisme donc a décidé d'inscrire dans les nouveaux manuels de la rentrée les questions concernant le gender, terme américain, pour désigner la liberté pour chacun de décider s'il est un homme ou une femme. Plus exactement, la liberté de décider de se conduire en homme ou en femme, quelle que soit la configuration du corps qui lui est attribuée à la naissance. J'ai reçu sur Internet quelques paroles de ces manuels. J'ai donc décidé de traiter ce sujet, remettant au mois d'août le début de l'histoire de l'Église. Voici les perles qui m'ont particulièrement frappé. L'identité sexuelle est le fait de se sentir totalement homme ou femme. Cette identité dépend d'une part du genre conféré à la naissance, d'autre part du conditionnement social. Deuxièmement, l'orientation sexuelle se révèle le plus souvent au moment de l'adolescence et elle relève totalement de l'intimité des personnes. Un peu plus loin, l'identité sexuelle est la perception subjective que l'on a de son propre sexe et de son orientation sexuelle. La perception subjective. Ou bien encore, seul le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou féminin. Et enfin, le mineur est libre de ses orientations sexuelles, c'est-à-dire qu'il peut avoir des relations sexuelles soit avec un homme, soit avec une femme. Le tout pour des collégiens. Il est difficile d'aller plus loin dans l'ignominie. Ainsi que l'a dit Jean-Paul II, je crois que c'était au Père Marie-Dominique Philippe qui l'avait dit ça, l'Église connaît la plus grande tentation depuis le début de son existence. De fait, nous revenons à la tentation du serpent, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, on dirait aussi bien décidant du bien et du mal. Le catéchisme de l'Église catholique dit clairement dans son paragraphe 398 « Dans le péché originel, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Créé dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans sa gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, être avant Dieu et non pas selon Dieu. C'est la quintessence de l'orgueil. Nous ne sommes plus dans la négation. Nous ne sommes plus dans la négation de Dieu, mais dans un rejet qui mène tout droit à la haine. L'essor de cette idéologie peut mener très loin. Pour l'instant, nous avons encore le droit de proclamer publiquement l'amour de Dieu. Mais si ceux qui le rejettent s'emparent du pouvoir, ne risquons-nous pas d'être interdits d'opinion sous peine d'être spoliés de nos biens, comme cela se faisait dans les dernières années de l'Empire romain? On risque de nous dire, si vous ne reconnaissez pas le pouvoir, que le pouvoir d'une assemblée est supérieur à celui que vous attribuez à votre Dieu, vous êtes passible du crime de lèse-démocratie et à ce titre des peines les plus dures. Que l'on pense aux accusations actuelles d'homophobie. Une première chose à rappeler est que nous ne sommes en rien les auteurs de notre nature. Notre nature nous a été donnée avec toute sa complexité. Que l'on songe au nombre impressionnant de spécialités que nous consultons en cas de maladie. Cardiologue, ophtalmologue, dentiste, oncologue, ORL, pneumologue, rhumatologue, entérologue, phlébologue, etc., sans parler des psychiatres. Nous ne pouvons prétendre être les auteurs d'une telle complexité. La nature humaine nous a donc été donnée comme celle d'un appareil merveilleux. Mais la première chose lorsqu'on entre en possession d'un appareil, qu'il s'agit d'une voiture, d'une machine à laver, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, est d'en consulter le mode d'emploi. Il n'est pas recommandé de mettre de la vinaigrette dans le moteur de sa voiture, ni de l'huile de vidange dans son réservoir. Les modes d'emploi de la nature humaine, qu'il s'agisse des codes de Solon, d'Amourabi, de Confucius, de l'Égypte ancienne, et naturellement des 10 commandements de Moïse, qui en sont le résumé le plus précis et le plus concis, ces modes d'emploi font tous référence à une autorité supérieure et bienveillante qui a organisé notre nature sans demander notre avis. Nous devons respecter notre mode d'emploi. Une deuxième évidence, sauf sur le plan que l'on pourrait qualifier de substantiel, être créé, doté d'une âme à l'image de Dieu et amené à participer à sa gloire, sauf sur ce plan donc, l'homme et la femme ne sont pas égaux, mais complémentaires, comme le papier et le crayon, ou la plume. L'un ne peut rien sans l'autre. On peut ajouter qu'on ne leur demande pas les mêmes qualités et qu'ils ne s'usent pas de la même manière. La Genèse, dans son chapitre 2, dit clairement « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu qui parle, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. » Il s'agit bien d'une complémentarité et non d'une duplication. Après la chute, si la femme a vu les douleurs de l'enfantement aggravées, c'est l'homme qui est condamné à travailler à la sueur de son front jusqu'à sa mort. Allons plus loin. Essayons d'éclaircir le rôle de chacun. Dans l'un de ses entretiens, le père Marie-Dominique Philippe, dont j'ai suivi l'enseignement pendant plus de 20 ans, a dit à propos de la femme, « Ève était la petite dernière, la préférée de Dieu. » Il lui a donc confié les deux choses les plus précieuses de sa création. Il l'a instaurée gardienne de la vie et gardienne de l'amour. Mais Dieu se complaît dans l'humilité. Il a donc laissé à l'homme la gloire terrestre, l'autorité du législateur. C'est ma foi fort bien vu, parce qu'on voit maintenant des femmes assoiffées de glorioles se ruer dans des domaines où elles peuvent exercer une autorité. Et leur rôle de gardienne, c'est l'avortement, c'est l'euthanasie, c'est l'homosexualité, c'est l'union libre. Il n'y a plus ni vie ni amour qui sont gardés. À une autre occasion, le père Philippe a fait remarquer que les anges, plus proches de Dieu que nous, par l'excellence de leur nature spirituelle, la qualité de leur intelligence et de leur volonté, que les anges donc ne connaissent pas la fécondité. D'une certaine manière, ils sont stériles. Dans le but d'avoir des créatures fécondes, Dieu a lié l'esprit à la matière, laquelle est divisible à l'infini. Il a créé l'homme esprit et matière. Dès lors, la fécondité impossible aux anges a été possible aux hommes et confiée à la femme. On peut imaginer la fureur de Satan et sa jalousie implacable envers cette femme qui, en tant qu'être humain, a le ventre plein de pourriture, comme le dit le livre des Proverbes, qui a tant de peine à maîtriser son corps charnel qui fuit de tous les côtés. C'est à ça, pense-t-il, que Dieu a confié la garde de ses trésors les plus précieux, car Dieu est la vie, Dieu est l'amour. Il a confié sa fragilité pour montrer sa toute-puissance de son amour. Le comble est atteint dans l'incarnation, Dieu prenant un corps humain dans le sein d'une femme. Il faut rappeler que c'est dans le sein, plus précisément dans le sexe d'une femme, qu'a débuté la vie de chacun d'entre nous, et que c'est dans le sexe d'une femme que nous avons tous vécu les premiers mois de notre existence, grâce à l'amour qu'elle nous a porté pour supporter les inconvénients de la grossesse. Dans la très grande majorité des cas, cet amour a persévéré dans les premiers temps de notre vie, ne serait-ce qu'avec l'allaitement. Je ne sais si on devient femme, selon le terme de Simone de Beauvoir, mais je sais que tous, y compris la dite Simone, ont pris corps et intelligence dans le corps d'une femme, jamais dans celui d'un homme, et que jamais un homme n'a sécrété une goutte de lait. Que reste-t-il donc à l'homme ? Disons que c'est à lui qu'il revient d'organiser la nature, le cadre de vie, de manière à faciliter, simplement à rendre possible, la vie de la femme et de sa descendance. C'est à l'homme de chasser le bison, de cultiver la terre et surtout d'édicter les lois qui rendront acceptable la vie en société, car, ne l'oublions pas, l'homme est un animal social. C'est pour cela que l'homme a été doué de la force physique. Prétendre le contraire est nier l'évidence. Il suffit de comparer les performances athlétiques de l'un et de l'autre sexe. Ne parlons pas de la boxe et de la lutte, mais même lorsqu'il n'y a pas contact physique entre les combattants, personne n'aurait l'idée d'organiser des championnats mixtes de tennis ou de cyclisme au niveau le plus élevé. C'est à l'homme qu'il revient de prendre en charge le culte rendu à Dieu par la société. Les personnages les plus importants de l'histoire ont été des chefs de guerre, des législateurs ou des grands prêtres, parfois les trois comme Moïse, David, Salomon ou Alexandre le Grand. Pendant ce temps, chaque homme, chaque femme, vivait grâce aux soins donnés par des femmes, au premier rang desquelles figurent la mère et l'épouse. On a souvent répété qu'à l'article de la mort, plusieurs hommes appelaient leur mère. Je n'ai jamais entendu dire que certains auraient crié « papa ». Évidemment, ces rôles dévolus à l'homme sont assortis de gloire, de bling-bling, comme on dit maintenant, disons de clinquant. Dans la pièce si attachante que Giraudoux écrivit sous le titre « Juliette ou la clé des songes », figure cette remarque concernant la vie des jeunes filles. Lorsque tout d'un coup survient l'homme, debout sur ses pattes de derrière, la poitrine en avant pour recevoir des décorations. La poitrine de la femme a une autre vocation que celle d'un plateau pour décoration. On peut examiner le cas de Saint Joseph. Il est typique quant à cet état de choses. Joseph est cité dans l'Évangile comme père adoptif et fils de, comme père adoptif du Christ, pardon. Oui, comme père adoptif et fils de David. Notons en passant que la paternité humaine a toujours un côté d'adoption. C'est la femme qui bâtit le corps de l'être humain, puis le propose à l'homme pour l'élever dans un amour commun. Autrefois, les hommes disaient souvent « Ma femme m'a donné 3-4 enfants ». C'est la femme qui les a donnés à son mari. La généalogie de saint Matthieu aboutit à Joseph. C'est saint Joseph qui a hérité du royaume de David et l'a transmis à son fils adoptif. C'est saint Joseph qui a appris à Jésus les règles de la société et de la liturgie. On appelait Jésus le fils du charpentier, le fils de David. C'est donc saint Joseph qui, en quelque sorte, avait la gloire d'être le père de Jésus. Mais, dans le domaine spirituel, quelle gloire pour celle qui est devenue notre mère au pied de la croix, dont on n'a jamais entendu dire qu'elle ait abandonné ceux qui auraient eu recours à elle. Elle dont l'enseignement se résume en une seule phrase, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Le résultat le plus clair de cette apologie du gender est l'hymne à la gloire de l'homosexualité. L'homme se dit libre de choisir non sa manière de respirer et de digérer, mais celle d'exercer les deux grandes facultés que Dieu lui a données, le don de la vie et le don de l'amour. Si nous ne devons pas condamner le pécheur, nous devons rejeter le péché. Si le Christ a pardonné à la femme adultère, il l'a congédié en disant « Va et ne pêche plus ». Le Christ n'a pas absous l'adultère en soi. Le péché reste haïssable. Actuellement, il semble que personne ne consentirait à lire publiquement le premier chapitre de l'Épître aux Corinthiens, notamment les versets 24 à 32. Lisez-les vous-même si vous avez un missel. Plus modéré dans ces termes, le catéchisme de l'Église catholique, qui devrait être le livre de chevet de ceux qui ont à transmettre notre doctrine, affirme sans embâche dans son paragraphe 2357 « Les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle, ils ne sauraient recevoir d'approbation dans aucun cas. Cela est clair. L'apologie actuelle de l'homosexualité qui va jusqu'à un mariage dont on se demande ce qu'il peut bien signifier et à la possibilité d'une adoption qui est une monstruosité, l'apologie de l'homosexualité montre que nous entrons dans une nouvelle phase particulièrement intense de la révolte contre Dieu. Il appartient à chacun d'entre nous d'examiner le mode de réaction le plus adapté, d'affirmer notre foi et nos convictions, la prière restant un moyen accessible à tous. Ce ne sont pas des associations de dépravés qui doivent faire la loi, fût-ce au nom d'une tolérance qui ne serait qu'une complicité. Peut-être faut-il s'apprêter à revenir à des temps de persécution analogues à celles que connut l'Église primitive. Quand le Fils reviendra, retrouvera-t-il la foi sur terre? Que ce soit au moins parmi nous. Je vous souhaite un bon été.